Les jeudis soirs, de 21h à 23h, 2 heures de la meilleure musique électronique à Québec. Sur les ondes de CKIA FM 88.3, c'est Résonance.
Mai 2022, mois de la poésie. Spectacle, art visuel, slam, musique, danse, création, rencontre, thé et poésie. Découvrez toute la programmation du Mois de la poésie au www.moisdelapoésie.ca. Le Mois de la poésie est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.
Bonjour, ici Aude Malaret, voici vos nouvelles du mercredi 18 mai 2022. La prochaine séance du Conseil d'agglomération aura lieu ce mercredi à 13h, en présence du public et des médias. Les mesures sanitaires en vigueur au moment de la séance devront être respectées. La séance aura lieu à la salle du Conseil dans l'Hôtel de Ville de Québec. Les citoyens et citoyennes peuvent consulter l'ordre du jour, les enregistrements audio ainsi que les procès-verbaux des séances sur le site de la Ville de Québec. La Société du patrimoine urbain de Québec, qui gère l'îlot des Palais, a inauguré le 10 mai dernier l'exposition immersive « 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar ». L'exposition invite le public à explorer ce monde nocturne. C'est un hommage aux bars des différents quartiers de la ville de Québec et aux gens qui les ont fait vivre, clients, barman, serveuses, DJ ou encore portiers. L'exposition 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar, sera proposée jusqu'au 5 septembre. Un local se libérera avec la fusion de l'épicerie 13-2 et l'accommodation bio dans Limoilou. Avec leur équipe de bénévoles, le 13-2 y ouvrira un espace culturel et communautaire. Cet espace accueillera des événements organisés pour et par les jeunes de la communauté, tels que des lancements de livres, d'albums de musique ou de films, des spectacles, des projections de films, des ateliers, des conférences et des discussions mettant en valeur le travail de la jeunesse. Grâce au financement participatif de citoyennes et citoyens, plus de 100 000 dollars ont été récoltés pour ce futur centre social. Conservation de la Nature Canada encourage les automobilistes à une grande vigilance sur la route. En effet, les tortues pondent parfois sur les chaussées ou tentent de traverser les routes. Bien que leur carapace soit une protection efficace contre les prédateurs, elle ne fait pas le poids face à une voiture. Toute personne apercevant une tortue est invitée à signaler sa présence sur le site du projet Carapace. Ces signalements permettent aux organismes de conservation de poser les bons gestes aux bons endroits. Depuis le lancement de carapace.ca en 2017, le nombre de signalements de tortues est en constante augmentation chaque année. À l'été 2021, près de 2000 tortues y avaient été signalées. 9 espèces de tortues vivent au Québec et elles sont toutes en situation précaire. C'est ce qui complète ce bulletin de nouvelles. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on.
Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Larry Hodgson et vous écoutez l'émission « Le jardin est reçu ». Sur les ondes de CKIA FM et également sur Facebook Live. Et comme à chaque semaine, je suis dans mon sous-sol, bien à l'abri du froid, parce qu'il ne fait pas si chaud que ça aujourd'hui. Et mes plantes aussi sont à l'intérieur, pour la plupart du moins. On est tous bien protégés. Côté température, vous avez vu, c'est haut et bas, haut et bas, haut et bas. Et c'est contenu, on annonce froid aujourd'hui, peut-être demain, ça va monter terriblement samedi, redescendre après, et encore pour les jardiniers, le plus important, c'est la température nocturne. On veut savoir quelle température qu'il risque d'avoir la nuit. Évidemment, ça change d'une région à l'autre, mais faites quand même attention avec cette température qui est encore, comme toujours au printemps, dans le fond, qui n'est pas très fiable. Donc, je voulais juste vous aviser de ça. Il reste qu'il y avait deux questions la semaine passée où je n'ai pas vraiment donné de réponse et je voulais essayer de compléter. Il y a une personne, il y a deux semaines, j'ai oublié d'en parler, qui m'avait demandé quels légumes je recommandais pour un potager au sol inondé au printemps. Et je vais rester comme bouche bée. C'est que, comme bien des gens, mon sol n'est jamais inondé. Je n'ai jamais eu à faire avec ça. Et je ne réponds pas de questions beaucoup sur cette situation, mais bien sûr que cette année-ci, il paraît que c'est assez grave. Hein? Il y a beaucoup de régions où il y a trop d'eau, la neige fonde trop rapidement, et donc les rivières sont en crue. Et ces places-là, qu'est-ce que c'est qu'on pourrait avoir comme plante? Donc, j'ai fouillé un peu. Il n'y a pas beaucoup de légumes qui émettent dans l'eau, mais si vous avez un coin qui est inondé parfois, j'ai trouvé les plantes suivantes qui peuvent pousser bien. Céleri, épinards, menthe, et une autre plante qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est un légume indigène, ce qu'on appelle des fois la patate en chapelet. La patate en chapelet, c'est un légume indigène, Apios americana, son nom botanique, que les Amérindiens mangeaient, et c'est un tubercule comme un pomme de terre, et ça aussi, ça va bien dans les sols détrempés. D'ailleurs, on le trouve le long du fleuve, dans les sols très humides. Donc voilà pour ça. Il y a autre question que j'avais, c'était sur l'épinard du Caucase. Quelqu'un m'a posé une question sur ce légume-là, que je ne connaissais pas du tout. Fait que j'ai fait des recherches, j'ai découvert qu'effectivement, je ne le connaissais vraiment pas. Son nom botanique, c'est Ablitia tannoides. C'est tout seul dans son genre, pas de proches parents, et c'est un goût un peu d'épinard. C'est une grande plante, assez rustique, paraît-il, mais c'est difficile à dire parce que c'est sûr que c'est populaire, notamment dans les pays scandinaves. Nous, on présume, dès qu'on en pense, scandinaves, on pense neige, on pense froid, puis on dit, bon, ça doit être l'équivalent d'ici, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, la Scandinavie, pour le plus gros de la population en Scandinavie, vit en zone 6. Une plus petite partie en zone 5, presque personne vit en zone 3 et 4, au moins. Donc, ça ne veut pas dire que ça pousse bien ici, mais ce serait essayé. Probablement dans la région de Montréal, ça devrait bien aller. Donc, un légume de plus à essayer, avec un goût d'épinard et qui est une grimpante. Donc, une grimpante avec des fleurs peut-être petites, mais pas là. Donc, peut-être un nouveau légume à essayer, l'épinard du Caucase. Voilà ce que j'en sais. Et je voulais peut-être juste vous rappeler que c'est l'année du jardin. Donc, faites le jardin partout, tout le temps. Et voilà. Avec ça, on va laisser la place à vos questions. Michel, l'homme va là, s'il vous plaît.
Il y a des questions, effectivement. Déjà plusieurs. On va y aller avec celle de Laurence Boucher. Elle dit, je suis de Lévis et je me demande à partir de quand je dois commencer à acclimater mes semis.
Les semis, on peut commencer à les acclimater. Dès qu'on a des nuits, en tout cas, dès que la température est en haut de 12, 13, ce serait mieux. En tout cas. Donc, le jour, souvent, on peut commencer tôt, relativement tôt dans la saison, mais il faut les rentrer la nuit dans ce cas-là. Donc, moi, je suis trop paresseux pour ça. J'attends à ce que les températures de la nuit commencent à être acceptables. Et je les sors. S'il faut que je les rentre une ou deux fois, c'est pas si pire. Mais quelqu'un qui voudrait commencer à acclimater dès le début de mai, imaginez-vous, c'est rentrer tous les soirs. C'est un peu plate, ça. Donc, 12, pourquoi 12 et pas 0? Parce que les gens, je pense qu'ils pensent que le chiffre magique, c'est 0. Que c'est le gel, et après ça, c'est en haut du gel, c'est pas grave. Mais non, des plantes frileuses, pas des plantes comme des cucurbitacées, concombres, melons, courges, ou les solanacées, entre autres, donc tomates, poivrons, etc. Ces plantes-là vont tolérer jusqu'au gel, mais ça va sérieusement, mais sérieusement ralentir tout. Et la plante reprend mal après. Donc, ça ne sert à rien de les exposer au froid. Ça ne le fait pas du bien du tout. D'autres légumes peuvent tolérer ça avec un peu de jugeote à utiliser. Mais moi, je dirais, quand vous voyez une nuit en haut de 12, on peut commencer à acclimater. Encore, si ça baisse en pas 12 quelquefois, bon, vous les rentrerez simplement. Mais c'est bientôt. Mais il faut se rappeler, là, dans le cas de Mme Boucher, je pense, qu'elle parle de Sud, de Québec. C'est rare qu'on puisse planter en pleine terre ces plantes frileuses-là avant le 10-12 juin dans la région. Hein. C'est très rare. Ce serait peut-être une année plus chaude que d'habitude parce qu'il y a peut-être un peu de chaleur qui s'en vient dans une semaine et demie à peu près. On verra bien.
Toujours Laurence Boucher qui se demande aussi si elle peut semer des fleurs, sacs de semences variées pour pollinisateurs, maintenant ou si elle doit attendre encore quelques jours.
Là, par exemple, je dirais qu'elle peut le faire. Parce que normalement, quand on vend des semences pour pollinisateurs ou des choses semblables, ce sont ce qu'on appelle des fleurs sauvages. C'est quoi la définition de fleurs sauvages? Qui sait? Mais ça veut dire concrètement, pour le jardinier, c'est des plantes qui s'occupent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin de dorlotage. Il n'y a rien là-dedans qui doit être parti dans la maison. Il n'y a rien là-dedans qui est fragile. La plupart peuvent tolérer même une touche de gel, pas prolongée, on s'entend là, mais une touche de gel, c'est même pas la fin du monde. Et il y en a beaucoup qui aiment ça quand c'est frais. Donc oui, on peut semer ça maintenant sans problème. Et les plantes pousseront selon les vitesses de la température. Plus vite quand il fait froid, plus vite quand il fait chaud, et moins vite quand il fait froid. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre pour ces fleurs-là. Vous avez bien compris, de toute façon, Mme Boucher, en sang, vous avez compris.
Agnès Morin-Chartrand, voyons, j'arrête pas d'accrocher mon micro, désolé. Il y a environ un mois, j'ai retiré quelques feuilles de mes violettes africaines pour stimuler leur floraison. Ensuite, je les ai plantées dans des petits pots individuel. Qu'est-ce que je fais maintenant?
Attends. C'est tout ce que vous pouvez faire. D'abord, premièrement, je ne sais pas ce que vous avez dit d'enlever les feuilles pour stimuler la floraison. Ça ne stimule pas la floraison du tout. Ça n'a aucun rapport. Si une feuille est verte, elle travaille encore. Et donc, elle bénéfique à la floraison. C'est pas le fait du monde, là. La plante avait beaucoup de plantes en plus de feuilles qu'il le faut. Mais certainement, il ne faut pas penser que ça a ajouté quoi que ce soit de floraison. Bon, voilà, premièrement. Et quand les plantes sont bouturées, c'est les boutures dont vous parlez, dans le cas de la violette africaine, on installe le pétiole, l'extrémité de la tige de la feuille, si on veut, dans le terreau, puis on garde légèrement humide, et ça pousse à sa vitesse. Quelle vitesse? Je ne sais pas. Ça varie beaucoup, ça dépend de la saison. C'est une excellente saison pour faire ça. Ça devrait aller relativement vite. Pour cette raison, mais c'est non aussi. Et par contre, vous avez pris des vieilles feuilles, je présume, celles de complètement en bas de la plante, sont un peu moins vite que les plantes de deuxième rang. Ceux qui sont au milieu, ça part plus vite. Mais dans quelques semaines, vous allez voir des pousses à la base de votre plante. Et voilà, c'est des bébés violettes africaines qui poussent. N'oubliez pas de les séparer, comme on va être à peu près, dirais-je, 4-5 cm de haut, divisé, parce que avec une violette africaine, quand on prend un bout de feuille, il n'y a jamais une plante, il y a toujours plusieurs. Et si vous voulez que la plante soit belle et symétrique, il faudrait avoir une plante par pot. Fait qu'à un moment donné, il faut les séparer. C'est la seule chose qui reste à faire dans ce cas-là. C'est d'attendre et plus tard, de séparer.
Maintenant, une question de Brigitte Roy. Est-ce que le chèvrefeuille Lonicera mandarin serait trop vigoureux pour habiller un grand chêne mature?
Oh non, 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 pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de grimpantes qui seraient trop vigoureuses pour une chêne mature, un grand arbre mature. Non, non, il n'y aurait pas de problème. Ça va monter, ça va faire des branches inférieures un peu. Mais votre chaîne est dominante. Et comme dans la nature, hein, on voit dans les grands arbres, souvent il y a des grimpantes. Mais elles ne viennent pas dominer, pas des grands arbres comme ça.
Prochaine question maintenant de Jeannette Willett. Elle dit, j'aimerais établir un couvre-sol de thé des bois. Golteria procumbens. À l'ombre des chênes sur mon terrain à Trois-Rivières. Zone 4B. J'ai récolté des baies sur des plants au chalet et en ai extrait les graines, pardon. Puis je leur faire passer les deux prochains mois en stratification froide au frigo, les sortir fin juillet et avec chance mettre les pousses en terre en septembre. Ou bien je devrais plutôt laisser tomber pour l'instant et amorcer le processus en janvier prochain pour une possible mise en terre en avril 2023. Le tout avec ajout d'un peu de terreau acidophile et un arrosage à l'eau de pluie pour éviter le calcaire basique.
Bon, vous avez fait pour vos études, hein? C'est vraiment très complet, votre processus. Oui, moi, je ferais ça maintenant. Et je dis ça parce que le Gaultieri, comme plusieurs arbustes indigènes, notamment de salicide, est ce qu'on appelle une graine récalcitrante. Si on le laisse sécher trop, ça n'a plus tendance à germer. Fait qu'on ne retient pas trop avec cette plante-là. Et aussi, il ne faut pas paniquer, mais il arrive des fois que ça prend deux sessions de fois avant que ça germe. Donc, première session, vous le donnez maintenant. Au bout de deux mois, vous exposez la chaleur. Vous espérez que ça germe, voilà. Ici, il n'y en a pas beaucoup qui germent. Piquez les plantes qui n'ont jamais mis dans les pots et remettez votre plateau au foie pour encore deux mois et répétez. Et vous risquez d'avoir beaucoup de germination la deuxième fois. Et quand vous avez un couvre-sol à faire, je comprends que vous avez besoin de beaucoup de plants. Donc, c'est mieux pour cette plante-là. Ça dépend. Si vous avez une excellente germination la première fois, c'est très bien. Pas besoin d'aller plus loin. Mais supposons que ce n'est pas si fort que ça. Vous allez presque certainement avoir de la germination avec une deuxième session de foie suivie de chaleur. Mais pour le reste, c'est parfait ce que vous avez prévu faire. Absolument parfait.
Prochaine question maintenant de Agnès Morin-Chartrand. En fait, non, on va y aller avec José René, pardon. Dans quel terreau transplanter un aloès? Merci.
Ah, le terreau de votre choix. Théoriquement, je devais vous dire dans un terreau pour cactus et plantes succulentes. Et ça se vend sur le marché. Sauf que les terreaux qu'on nous vend pour plantes intérieures, les terreaux modernes, je ne parle pas des terreaux d'il y a 40 ans, les terreaux modernes sont très légers et pleins d'espace d'air et donc se drainent très bien. Et c'est ce qu'on aime. Donc, d'avoir un terreau spécial, ce n'est pas si nécessaire que ça. Si vous voulez, vous pouvez, mais si vous allez payer un peu plus cher, et je ne suis pas certain que ça vaut grand-chose. Quelqu'un qui va en faire son propre terreau, moi, je prendrais d'abord le terreau style Promix ou autre, là, Lambert, qui, peu importe, n'importe quelle compagnie, terreau d'empotage. Et vous pouvez toujours ajouter quelque chose de aéré, comme, et c'est ce que beaucoup de succulents au fil font, ils vont prendre ce qu'on appelle le gravier de perruche. C'est quoi le gravier de perruche? Et là, vous ne trouvez pas, une jardinerie. Vous allez dans une animalerie à la place. Et c'est de petites graines de gravier blanches que les oiseaux doivent avaler pour digérer les choses. Et ce sera un produit à acheter. Ça donne plus de poids aussi au terreau, mais ça laisse passer l'air et l'eau. Mais c'est vraiment pas si nécessaire que ça. Moi, je veux dire que j'ai beaucoup d'aloès ici. Ils sont tous dans un terreau tout à fait ordinaire. Et ça va merveilleusement bien.
On va y aller avec Brigitte Roy. Doit-on ajouter de l'engrais à l'ail planté à l'automne dernier?
OK. Là, oui, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas rejeter à l'automne, oui, vous pouvez le faire parce que l'ail va dans sa phase de croissance. On utilise un peu d'engrais. Et surtout après la floraison, c'est là où c'est le plus utile. Par contre, si vous n'avez qu'un seul moment pour le faire, moi, je le ferai après la floraison. On s'entend. Après avoir enlevé normalement la tige florale, ce serait l'autre moment pour en mettre. La plante fait le plus de réserves, fait le plus de travail pour en vue de la production de d'ail, de bulbes. Oui.
Mélanie Brière a dit, drôle de question, mais est-ce qu'il est possible de faire pousser du gazon sur de l'asphalte? Si oui, quelle épaisseur de terre devrait-on mettre? Sinon, y a-t-il un couvre-sol qui pourrait bien, qui pousserait bien, pardon? Zone 4, et à la fin, elle dit, merci, monsieur le paresseux.
Écoutez, oui, vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Simplement que le gazon risque d'être stressé parce qu'il n'y a pas de profondeur. Et comme toute plante, les graminées, elles vont être une profondeur. Mais ça, on peut facilement faire ça. On le voit d'ailleurs là, quand les compagnies font des montages pour l'été, à quelque part. Ils vont dérouler quelques rouleaux de gazon, puis l'entretenir l'été, ça survit très bien. Bon, quelle profondeur? Ben, ça dépend. Plus c'est épais, mieux que c'est. Et si c'est super mince, vous allez passer votre temps à arroser. Et n'oubliez pas que les restrictions d'arrosage peuvent avoir une influence. On sait qu'à Québec, notamment, on réduit beaucoup, et là, vous serez peut-être mal pris. Moi, je dirais minimum 15 cm, 6 pouces. Puis je viserais vraiment, si possible, 30, c'est beaucoup, hein, un pied. Mais au moins, vous n'aurez pas à arroser tous les deux jours. C'est ça qui arrive quand vous avez pas assez de terre sous un gazon. C'est pas l'idéal, ce ne serait jamais l'idéal, mais ça peut se faire, oui. Quand quelqu'un demande si ça se fait, oui, ça se fait. C'est parfaitement possible.
Suite à cette question-là, il m'en est venu une personnelle. Oui. On parle parfois de tourbe et de gazon. Pourtant, au final, visuellement, c'est la même chose. Pourquoi on utilise ces deux termes-là? Parce que dans ma tête, tourbe, c'est des rouleaux que tu déroules sur un terrain et que ça devient du gazon, mais c'est du gazon à la base. Je ne sais pas si...
Est-ce qu'on utilise mal le mot tourbe? Hein? Je ne l'ai pas dit, tourbe, d'ailleurs. Je ne suis pas supposé dire ça. C'est les plaques de gazon qu'on devrait dire. Parce que tourbe, en fait, c'est ce qu'on trouve dans les tourbières. C'est cette mousse moitié dans l'eau, dans les tourbières. Mais au Québec, je ne sais pas pourquoi, on est venu parler de les rouleaux de gazon qu'on est dans la tourbe. Mais en fait, c'est plutôt les plaques de gazon qu'on devrait dire. Parce qu'il n'y a pas de tourbe là-dedans. C'est de la terre et des graminées qui poussent. Donc, voilà, c'est une... Il y a beaucoup d'erreurs comme ça qui se transmettent de journée en journée depuis très longtemps.
Et de génération en génération aussi.
De génération en génération, absolument.
Donc, on va y aller maintenant avec la question de Manon Frève. Elle dit, ma fille a reçu un cadeau de Passiflora vitifolia. Il est inscrit sur l'étiquette zone 10-12. Elle demeure à Verchères, qui est en zone 5B. Est-ce que cette plante peut tolérer un nos hivers et qu'est-ce qu'elle devrait faire pour conserver le plus longtemps possible? Notez bien, le sol est compact et acide. Merci.
Oui, oui. Les zones vont de 0 à 12. 12, c'est le plus chaud. C'est les tropiques totales. En zone 12, il ne fait jamais frais. Jamais. Même en zone 10, c'est les tropiques où il fait quand même un peu plus frais au cours de l'année. Il y a une période de fraîcheur. Mais une plante de zone 10 à 12, donc c'est une plante super tropicale et nullement capable de survivre à l'hiver au Québec. Donc, il faudrait la rentrer à l'automne. Votre plante, c'est la Passiflora vitifolia. C'est une fleur de la passion, la fleur rouge. C'est le plus florifère des passiflores sous notre climat. Excellente plante à cultiver, mais il faut quand même penser que ça devient gros. Hein? Je pense que c'est votre sœur que vous avez. Alors, il y a besoin de le contrôler un peu. Ça peut aller partout.
C'est sa fille, Larry.
Voilà. Donc, vous allez mettre ça. Si vous avez planté ça en plein temps, vous pouvez. Pas de problème. Faites un assez gros trou. Pas profond, mais plus large. Ameublissez, comme vous dites que le sol est dur. Ça pourrait être bien de l'ameublir. Rajouter du compost ou quelque chose ou du fumier pour l'ameublir un peu. Et essayer comme vous voulez. Mais à l'automne, il faudrait le rabattre sérieusement. Parce que, d'abord, votre fils ne serait jamais capable de rentrer ça dans la maison. Ça va être beaucoup trop gros. Et vous allez donc le garder dans la maison l'hiver. C'est une grande pente. Hein, c'est prendre un treillis ou un support quelconque sur lequel le passiflore peut pousser.
Guylaine Girard, mes plants de rhubarbe fleurissent déjà Ils ont un gros tronc. Est-ce normal? Dois-je les couper?
Oh non, pas du tout. C'est le... Mon père le croyait, par contre. Je me souviens très bien. On avait toujours le rhubarbe chez nous. Puis dès qu'il y avait la tige florale, il coupait ça. J'étais convaincu que sans ça, la plante allait mourir. Moi, ce que je faisais, j'ai plus de rhubarbe maintenant. Je laissais fleurir parce que c'est tellement beau à voir. Après la floraison, je coupais tout simplement parce que je ne voulais pas avoir des graines partout. Parce que quand c'est fini par mourir, parce que la tige florale est temporaire, les graines se font de cette tombe partout. Fait que je coupais après ça. Mais ce n'est pas nécessaire pour la plante, c'est plus pour nous. Hein. Donc, vous pouvez laisser faire si vous voulez. Ce n'est pas un problème.
Question maintenant de Aiden Knight. Est-ce inévitable que tous les fraisiers et framboisiers deviennent virosés avec le temps?
Oh, ça c'est une question intéressante et je ne peux pas dire que j'ai une réponse. Moi, je croirais que à quelque part sur la planète, il doit y avoir des variétés plus résistantes que d'autres. Et moi, il faut présumer que ça va arriver. Comme je ne suis pas certain que le petit fraisier alpin, que celui qui court dans les gazons, fait des toutes petites fraises super sucrées, je ne suis pas certain qu'il soit très sujet au virus comme les autres. Ou encore, ça ne paierait pas trop. Mais je pense qu'il faut prendre pour acquis que si vous prenez des variétés développées pour l'être humain, les virus viennent, s'installent et les plantes dépérissent après 3, 4, 5 ans. C'est comme l'anormal pour ces plantes-là.
Autre question de Aiden Knight. Comment la situation sur la cryocère du lys a-t-elle évolué au cours des dernières années dans la ville de Québec? J'ai lu votre article sur le blog et dans les commentaires, vous disiez que cela avait diminué en raison de la baisse de la popularité de la plante. Merci.
De ce que je sais, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes qu'il y avait autrefois. À quel point que ce soit vrai partout, parce qu'il peut bien avoir une baisse de population générale et qui arrive beaucoup chez vous, ça ne veut rien dire. Mais quand il y a moins de plantes, quelqu'un qui s'occupe d'écraser, contrôler les créateurs qu'il voit, ou d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les créateurs du lys, est une coléoptère allongée rouge avec une corne noire, qui mange que les lys et les proches parents. Donc, et les larves qui sont gluantes, et les adultes mangent les feuilles et les fleurs des lys, à tel point que beaucoup de gens, il y en a tellement qu'ils ont arraché. Mais maintenant qu'il y a moins de lys, la population, elle va baisser. Donc, c'est un peu normal, hein? Si la plante haute est plus rare, l'insecte devient plus rare aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Par contre, je dis ça, il y a des personnes qui me disent, hey, je ne vois plus du tout de PLCR. Chez moi, j'en vois très peu. Et j'en vois encore un peu. Mais pas comme avant. Pas du tout comme avant. Et d'ailleurs, si j'en vois, c'est que j'avais pensé avoir éliminé mes listes, mais il y en a deux, trois que j'ai oubliées. Et c'est là où que les PLCR reviennent. Voilà.
Cathy Bérubé, avez-vous des suggestions pour terre et un grès à utiliser pour potager en bac, nouveau potager de cette année? Et doit-on pardon, répéter durant l'été l'engraissement?
Bon, écoutez, je ne donnerai pas de marque spécifique, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont pas mal bons. Tout ce qui s'appelle terreau d'empotage ou terreau pour plantes intérieures ou terreau pour terrasse, ce sont pas mal tous dans la même catégorie. Ce sont des terreaux aérés, mais qui retiennent l'eau. Et c'est ça qui nous intéresse dans un cas semblable. Parce que la richesse, on peut la rejeter. Ça, c'est moins grave. Mais on veut un terreau qui peut retenir l'eau parce que dans ma plante, tu es obligé d'arroser souvent en plantant en pot et ça sèche vite. Et l'autre, on veut vraiment que ça soit aéré parce que si ça reste un peu humide, il faut que l'air circule pareil. Donc, ces terreaux sont excellents. Et ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est justement, on peut mettre l'engrais plus qu'une fois au cours de l'été. Souvent, ce que les gens vont faire, ils vont appliquer à la plantation un engrais à dégagement lent. Donc, un engrais qui va se libérer tranquillement au cours de la saison, Et, mais ce ne sera peut-être pas assez plus tard parce que les plantes grossissent, ont besoin de plus d'engrais. Mais alors qu'il y a cet engrais-là qui s'élève un peu à peu, ils vont rajouter un engrais supplémentaire, mais liquide cette fois-ci, soluble, et peut-être encore la moitié de la dose recommandée. Ils vont rajouter ça. Et comme ça, ils ont le bénéfice de l'engrais qui se libère lentement et un engrais qu'on rajoute pour stimuler la meilleure croissance. Voilà.
Carole Gamache, pour le pays au potager ou en plate-bande florale, y a-t-il des essences d'arbres à éviter?
Donc, un pays fait avec l'arbre, je présume, c'est ce que vous voulez dire.
Elle dit au potager ou en plate-bande. C'est tout ce qui est écrit, malheureusement.
Non, c'est pas ça. Je suis un peu plus saisi. Bon, écoutez, certaines choses, les pailles sont pas mal égaux. Tous les pailles vont aider à garder le sol plus humide, peu importe la plante d'origine. Tous les pailles vont garder le sol un peu plus frais, peu importe l'origine. Ils vont tous empêcher la germination des mauvaises herbes. Voilà. Là où il y a une différence, et ça a une influence sur la croissance des plantes, c'est que beaucoup de paillis enrichissent le sol. Donc, on parle de paillis qui sont à base de feuilles mortes ou de différents composts ou de choses semblables qui se décomposent, qui s'enrichent en minéraux. Là, vous avez un paillis qui, en plus, enrichit le sol. Mais vous avez dans cette... Et même le paillis de bois franc, on pense notamment au célèbre paillis de... j'ai oublié son nom, bien sûr, maintenant que je vais essayer de le dire, qui est fait avec des morceaux de bois déchiqueté. Ah, le nom ne vient pas. Voilà. Est quand même fait avec du bois franc, donc pas de conifères, et quand même très riche. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Par contre, les conifères, pour la plupart, ne sont pas riches et ne libèrent pas les minéraux très rapidement. Donc, si vous utilisez un paillis semblable, un paillis de conifères comme on voit le paillis de cèdre, il faudra absolument penser de rajouter de l'engrais avec, parce que sinon, il n'y a pas de richesse là-dedans. Ça va faire encore des autres choses. C'est un paillis pareil. Mais améliorer le sol avec des minéraux, non, ça ne fait pas ça.
Mu-Saint-Onge, bonjour. Peut-on déplacer des tulipes après sa floraison avec ses feuilles pour les laisser jaunir ou c'est mieux de retirer les bulbes, les laisser sécher, entreposer et replanter à l'automne?
Ok, j'essaie de saisir la nuance. Peut-on déplacer les tulipes? Bon, de toute façon, la meilleure chose, c'est de laisser en terre, bien sûr. Hein? On n'a absolument pas besoin on a des tulipes. C'est baisse de qualité. Mais si vous avez une raison, j'imagine que vous avez d'autres choses à planter à cette place-là. Vous pouvez les enlever, mais attendez que les feuilles sont pas mal terminées. Parce que n'oubliez pas que la tulipe fait la photosynthèse de toute l'année en l'espace de un mois et demi après la floraison. Les feuilles sont là et tout, la force du bulbe à venir, toute la force doit être absorbée et emmagasinée dans cette courte période de temps-là. Si vous les récoltez quand les feuilles sont vertes, même si avant jaunir par la suite, pendant que c'est vert, c'est encore fonctionnel. Donc moi, je dirais de ne pas trop toucher si vous êtes capable pendant que la plante est les feuilles sont vertes. Si vous avez absolument besoin de déplacer une tulipe en feuilles, faites tout simplement très attention de la déplacer avec les racines et replantez-la ailleurs. Ce serait l'idéal. Et si vous les avez enlevées, et supposons que les feuilles étaient jaunes, vous les avez enlevées, oui, gardez-les au sec et au frais, si possible. Faites attention aux mulots ou tous les animaux qui aiment bien les manger et replantez-les l'autre, en absolument. Oui.
On va y aller maintenant avec Poutine Richard. Ça donne fin, ça, à 10h33. Comment conserver Diplamédia l'hiver?
Ah, ça doit être Diplamédia. Diplamédia. Donc, c'est... Oui, et là, j'essaie de donner le vrai nom, et là, ça ne vient pas l'esprit. Ben, écoutez, c'est une plante tropicale. La dipylénia, c'est une plante tropicale. Donc, il faut absolument, l'hiver, donner des conditions où la plante est protégée du froid pendant l'hiver. Pas juste le froid, mais même proche du froid pendant l'hiver. J'entends, là, c'est vraiment fou, ça, Dania. Donc, je ne peux pas parler et taper en même temps. Ça se peut, hein? Mais Mandeville, son vrai nom, c'est Mandeville. Excusez-moi. Mandeville, donc. L'idéal, ce serait donc de le garder au chaud. Ce qu'on peut faire, si le pot se fait en pot, ce serait de tailler sévèrement, de rentrer dans la maison. Et vous avez deux choix. Soit que vous le gardez en croissance, dans une pièce éclairée, arrosage modéré, et un peu de taille de temps en temps, parce que c'est une grande plante, elle va essayer d'aller partout. Il ne faut pas le laisser faire. Ou vous le mettez en dormance. La dormance, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, nuisible, c'est pas un mot, mais c'est nuisible, pareil. C'est comme, c'est un choc pour son système. La plante ne vit pas ça dans la nature. C'est une, elle a des réserves, c'est comme si elle passait dans une période de sécheresse extrême. Puis elle n'aime pas ça. Mais vous pouvez le faire. Parce que là, vous arrêtez de l'arroser. Vous le mettez dans un coin frais, style 7 degrés la nuit. Ça peut être dans le noir, ça serait l'idéal. Et vous faites vraiment rien avec. Pendant les heures, au mois de mars, il faut le repartir dans ce cas-là. Parce que la plante doit avoir quelques, de peu près 2 mois de croissance avant de pouvoir fleurir de nouveau. Mais dans les deux cas, l'important, c'est de rentrer à l'automne. Cette plante-là ne passerait pas l'hiver d'or. Voilà.
Et on va y aller maintenant avec Linda Fournier. J'ai eu un Calla Lily. Est-ce que je dois le rempoter dans plus grand ou le mettre en pleine terre? Comment garder les bulbes? Merci beaucoup.
Et le Calla Lily, c'est ce qu'on appelle couramment Lys Calla, mais en fait, c'est pas un lys. Donc, le mot Calla tout court convient très bien. D'ailleurs, on devrait la même chose en anglais. Calla, ça marche dans les deux langues. Si on appelle ça un Calla, les deux groupes pourraient se parler, ce serait parfait. Bon, le calet, donc, n'est pas un lys, mais c'est bel et bien une bulbe. Même contrairement au lys, où vous avez habituellement un gros bulbe, et pas trop souvent les bébés autour, le calet, en général, produit beaucoup de bébés. Mais c'est une bulbe qui n'est pas rustique. Un peu comme le mandeville tantôt. Il va falloir le protéger du froid. Donc, lorsque, quand vous avez dans la maison, ou vous l'avez acheté pour l'extérieur. Tant que la plante est en croissance, vous allez l'entretenir. Vous allez donc l'arroser, fertiliser avec l'engrais de votre choix. Vous allez le mettre au soleil pour que la plante puisse faire des réserves. Et vous allez laisser pousser le plus longtemps possible. Donc, vous allez le mettre, garder en croissance avec un arrosage régulier. Et les engrais, jusqu'à ce qu'il commence à faire froid à l'automne. Pas besoin de temps que ce soit le gel, mais il commence à faire un peu froid à l'automne. Là, on le rentre. Cette plante-là peut aller en dormance totale. Donc, vous le rentrez, vous coupez l'eau. Moi, je dirais le plus facile, si la plante est en pot, ça rentre le pot au complet. Mais on peut le sortir, le remporter au printemps. Mais rentre le pot au complet, garder ça au sec l'hiver, dans un endroit frais, 6-7 degrés, et vous le repartez au printemps suivant en recommençant l'arrosage et en rajoutant de l'eau. Commencez à arroser de nouveau. Voilà.
Jeannette Ouellet, j'ai tenté de bouturer un Diefenbaker Camille l'automne dernier, petit bout avec deux feuilles. Elle est étouffée au départ, elles sont à l'air libre depuis quelques mois. Elle semble bien correcte, mais aucune nouvelle pousse. Le Diefenbaker fait-il partie de ces plantes dont les feuilles poussent, peuvent s'enraciner sans pour autant se développer en plantes, comme le Schiffleria?
OK, non, c'est pas ça. C'est que vous avez bien, j'ai bien compris que vous avez pris un bout avec deux feuilles. Donc, vous n'avez pas pris un bout de feuilles. Vous avez un bout de tige. Le petit bout est une tige. Ça fait toute la différence. Parce que là, un bout de feuille de chef-fleurant ne vivra pas longtemps. ça ne fait même pas de racines. Donc, c'est certain que ce n'est pas un bout de tout fait. C'est une tige. Tout ce que vous avez fait, c'est attendre. Le chef Laura est là. Là. C'est pas vite. Et surtout, après avoir été bouturé, il faut qu'elle fasse un nouveau système de racines. Il faut qu'elle commence à pousser. Elle est super là. Mais elle va le faire. À un moment donné, vous allez voir que, ah, il sort une troisième feuille. Plus tard, une quatrième feuille. Mais ça va se faire avec beaucoup de lenteur. Mais ça va venir. Il s'agit d'être patient. Voilà.
Marie-Laurence Bertoli. J'ai un talus qui s'effondre petit à petit. Quelle plante grimpante pourrais-je planter pour le maintenir? À la base, je pourrais mettre de la bonne terre, mais le talus n'est pas de la bonne terre.
Ben moi, je dirais les choses. Ça dépend où vous restez, bien sûr. Parce que là, si vous étiez en zone 5, ça donne plus de possibilités. Mais je pense que l'idéal, ce serait un des grimpantes qui peut s'enraciner ou toucher au sol. Parce que comme ça, même si le talus est très pauvre, ça va faire des racines dans le talus et le tenir en place. Donc, moi, je dirais avec la vigne vierge, ça pousse partout au Québec, c'est plus facile parce que c'est adapté au froid. Et le deuxième choix, très proche parent, ce serait le lierre de Boston. La seule différence, le lierre de Boston, en zone 3 ou 4, ça va moins bien à cause du froid d'hiver. Mais il va très bien à Montréal, les zones 5 en général. Mais les deux font vraiment bien ça. Autrement dit, vous les enracinez dans la bonne terre au pied, vous laissez courir, elles vont toucher au sol et faire des racines et tenir leur talus en place. Et si elles vont trop loin, et vous allez voir une grimpante, elle a tendance à être ambitieuse. Ça va partir dans tous les sens. Vous coupez les tiges qui vont trop loin, tout simplement. Et ça peut faire un effet de couvre-sol qui cache tout. Dans pas si longtemps, d'ailleurs. Ça va assez vite.
Manon Frève, pardon. J'aimerais savoir s'il y a des bulbes florales que les marmottes détestent.
Les bulbes que les marmottes détestent. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je n'ai jamais pensé à ça. Ben, c'est sûr que si on parle de bulbes d'automne, les marmottes, ce n'est pas l'automne, vraiment. C'est plus l'été. Ils ne mangent pas des bulbes qui sont toxiques. Ils ne mangent pas de jacinthe, ne mangent pas des bulbes de narcisse. Mais les bulbes d'été, je ne suis pas certain. Je parle des lys. Je ne sais pas, parce que vous savez, le lys est comestible pour l'être humain et toxique pour les chats. Et ce moment, ce n'est pas un chat non plus. Donc, je ne sais pas dans quel cadre que ça peut tomber. Les choses comme les bégonies tubéreux, je croirais que ça doit être comestible. C'est l'aide pour l'être humain d'avoir, pourquoi pas. Il n'y a pas grand-chose de toxique là-dedans. Moi, je dirais qu'il y a des bonnes chances que la maman soit intéressée par pas mal tous les bulbes d'été. Je ne vois pas vraiment de grande exception de ces bulbes-là qu'on plante au printemps pour les fleurs d'été. Je pense que la maman pourrait être intéressée.
Colette Godemer-Pépin. Est-ce trop tôt pour planter les bulbes de dahlia en estrie? Deuxième question. Oui, il y a du prêle. Est-ce que... Attends, ça bouge. Oui, il y a du prêle. Est-ce que la cause est que la terre est trop acide? Merci.
Okay. Est-ce que c'est trop tôt pour les bulbes de dahlia en estrie? La règle de 12 degrés, là, s'applique. Est-ce qu'en estrie, les nuits descendent pas de 12, laissez-les dans la maison? Ou acclimatez-les peut-être et plantez-les après. Donc, oui, cette règle-là, c'est facile à comprendre. Côté de la prêle, cette croyance-là que la prêle pousse dans les sols acides est une fausse croyance, un mythe. Les gens disent la même chose, puis ils enlèvent des choses comme ça. C'est jamais vrai, cette histoire-là. Si c'est une plante, pensez quelque chose. Si une plante est une mauvaise herbe, considérée universellement comme une mauvaise herbe, c'est qu'elle pousse sous presque toutes les conditions. Si c'est une plante très spécifique, je ne sais pas, mais rare, là, ça pourrait indiquer quelque chose. Une mauvaise herbe, soit acide, soit alcalin, ça ne les dérange pas. C'est sûr qu'il y a une exception. À un moment donné, on arrive dans un sol trop alcalin pour le prêle, mais juste goût, on a le prêt, là, ça peut pousser n'importe où. Ça, le cidre, ça, l'alcalin. Puis son lit, même chose. Faut pas croire ces mythes-là. C'est simplement, c'est pas vrai.
Une autre question de Manon Frève. Attends un peu, ça a bougé. Elle dit qu'elle aimerait connaître le nom des fleurs annuelles qui tolèrent la chaleur et la sécheresse.
Oui, il y en a quand même beaucoup. Hein? Je ne pourrais pas vous sortir une liste. Demain, même, je vais donner quelques exemples. Et d'ailleurs, le nom, on va vous le dire. Hein? Si vous avez une plante qui s'appelle Soleil de Californie, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Ou encore Pavot de Californie, ça en est une autre. Tout ce qui a feuille argentée, il y a plusieurs annuelles de feuille argentée. Donc, le Dusty Miller, entre autres, sont toujours assez plantes résistantes à la sécheresse. Il se trouve également que le coquelicot, elle pousse très vite, mais elle est parfaitement résistante à la sécheresse et au soleil, pas de problème. Et en général, les plantes avec des feuilles, comment dirais-je, plus molles, plus grosses, les tiges molles, comme les impatientes, c'est les moins tolérantes, les coins secs et chauds.
Clémence Carrier écrit, en fait, qu'elle veut savoir si c'est possible que les pucerons arrivent avec le terreau.
OK. Moi, ça, je ne crois pas. J'essaie d'imaginer dans quelles circonstances que ça pourrait être inclus dans un terreau. On va présumer qu'un terreau a probablement été emporté depuis au moins 2 semaines, disons, le temps que c'était préparé, traité, probablement récolté l'an dernier, etc., etc. Non, un insecte vivant ne peut pas arriver là-dedans. C'est pas possible. Et c'est pas exactement, c'est pas comme si c'est un microbe qui pourrait survivre des années sans croître. C'est pas comme ça, un puceron, un insecte. Ça doit revenir à la vie assez rapidement. Non, je ne pense pas que c'est possible qu'un terreau ait déjà des insectes vivants, un terreau acheté. Là. Si vous déterrez de la terre dans votre jardin, vous allez rentrer dans la maison. Ça, c'est une autre histoire. Mais un terreau, non. Terreau ensaché, là, non, je ne vois pas comment ça puisse arriver.
Linda Fournier, est-ce qu'une vigne à raisin sucré est facile à cultiver en zone 4B?
Ben, ça dépend desquelles, parce qu'il y a des variétés de toutes sortes. De nos jours, on a beaucoup de chance, parce qu'il y a, quoi, 40 ans, il y avait très peu de variétés qui étaient de vignes qui étaient rustiques. Et la plupart n'étaient pas tellement des vignes de table, des raisins de table. Et maintenant, on a beaucoup de choix. Je n'ai pas le même ordre d'un éléphant, donc je ne me souviens pas des noms différents. Mais allez sur mon site web, vérifiez vignes rustiques. Et pour chaque vigne, je ne sais pas s'il y a une description ou pas, je ne me souviens pas. Je fais comme une liste, longue liste, vérité résistante. Mais il faudrait vérifier les autres caractéristiques de chaque sorte. Et on trouve facilement des vignes pour les zones 3 et 4 de nos jours, même zone 2. Au moins une variété. Donc, vous avez beaucoup de chance de trouver quelque chose de bien. Maintenant, la question, c'est de trouver un magasin. Ça, c'est peut-être mieux des fois. Aller voir un spécialiste qui vend par courriel, par Internet.
Mais, puis, je viens d'acheter un beau Malus Dolgo. Comment je l'entretiens à l'automne? Dois-je le couvrir ou le protéger?
Non. Non, Dolgo, donc, Malus Dolgo, c'est un pommetier Dolgo. Et en plus, Dolgo a une excellente réputation comme pommetier parce que ce n'est pas une plante sujette aux maladies tellement. Très rustique, qui ne cause pas de problème, fiable, fleurit tous les ans. Et vous avez la plupart des pommetiers, c'est une année de floraison, une année de peu de fleurs. Une année de grosse floraison, une année de peu de fleurs. Dolgo répète tous les ans. Et vous avez des fruits qu'on peut manger. Donc, wow, c'est comme assez de perfection. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Côté couvrir ou protéger, non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Moi, je dirais le premier hiver, c'est pas mauvais de mettre une barrière devant, peut-être piquer mettre deux piquets devant et étendre, je sais pas, une toile juste côté nord-ouest. Parce que c'est de là qu'ils viennent les vents froids. Juste pour couper le vent, pour le premier hiver. Pas besoin de l'emballer, là. Juste pour couper le vent, le premier hiver. Et après ça, tout est grave. Pas de problème. C'est très rustique, les premiers. On n'a pas besoin de penser les protéger d'habitude.
Sabrina Jacques. Elle dit, je lisais un article sur votre blog qui est là, elle donne le titre, c'est « Cet été, donnez votre jardin tempéré une allure tropicale. » Et il est écrit que l'on peut mettre des canas et colocasias dans nos jardins d'eau. J'aimerais savoir si tous les colocasias peuvent être dans l'eau et si le chlore contenu dans l'eau peut être dommageable pour mes plantes qui sont pour cet été.
On peut mettre tout, évidemment, on s'entend. Ils sont dans l'eau, mais dans du terreau, dans une terre. Vous ne les mettez pas juste dans l'eau, là. Vous plantez dans un pot et quand le coin s'est parti, vous l'avez probablement parti dans la maison pour avoir un peu d'avance sur la saison, mais vous placez le pot dans l'eau. C'est comme ça qu'on peut faire. Donc, et pas une pot profonde non plus, mais juste au niveau de la base des tiges. Donc, ça, on peut le faire pour tous les canaux, tous les colocases ou colocases. C'est pas un problème, ça. Donc, ça, c'est déjà une première partie de la question. La deuxième partie, le chlore, ce n'est pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi le mythe, et pourtant c'est un mythe qu'on entend, même aux États-Unis, c'est le même mythe. Comment ça court partout que le chlore est si nuisible aux plantes? Le chlore, il n'y en a pas assez de chlore dans l'eau pour nuire aux plantes. C'est une quantité minime. C'est pas un problème. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. En plus, les plantes ont besoin de chlore. C'est obligatoire. Sans chlore, les plantes meurent. Donc, ça n'a pas besoin d'avoir beaucoup, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Le chlore, ça ne nuit pas aux plantes. Tout ce qu'on entend de croyances, ça fait brûler des feuilles, etc. Ce n'est pas le chlore, c'est autre chose. Le chlore, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas avoir un problème si on allait, parce qu'on voit les gens traiter la piscine avec le chlore, puis en concentration, c'est sûr. Mais la concentration de chlore qu'on voit dans les eaux municipales et même des villes où les gens disent « Oh, ça sent beaucoup le chlore », c'est pas assez pour nuire, mais vraiment pas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça.
Jeannette Ouellette, une suggestion pour utiliser des jardinières rectangulaires trop peu profondes, 6 à 8 pouces, mis à part romarin et lavande, n'importe quel type de plante.
Les plantes en plastique? Oh, je suis méchant. Je ne devrais pas dire ça. mais vous, quand vous avez posé la question, vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Ça sèche trop vite. C'est toujours ça l'histoire. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, faut croire que je suis suffisamment intelligent pour apprendre vite. Mais mes premières expériences, jardin sur un balcon, j'avais fait le gaffe de mettre les plantes dans des pots pas profonds. Et quel désastre! Mais quel désastre! C'est épouvantable qu'on ait fait avec Charros tout le temps, tout le temps. Donc, moi, je dirais, évidemment, vous avez raison que romarin est raisonnable, lavande, les deux aiment ça que ça sèche. Aussi, pensez plantes succulentes. Tout ce qui est plantes succulentes vont être correctes avec ça. Mais même là, il faudrait arroser. Hein? Ça ne vous épargne pas de l'arrosage. Mais moins d'arrosage, il faudrait arroser quand même. Vous pouvez essayer aussi, c'est une plante réputée pour leur tolérance à la sécheresse. Pavot de Californie, entre autres. Dusty Miller, le Saint-Nesson blanc. Ça, c'est des plantes qu'on que vous pouvez cultiver aussi, mais il ne faut pas manquer les arrosages. Ça va être toujours stressant. Et éventuellement, suggestion, utilisez ces pots-là pour d'autres choses et trouvez-vous des pots qui ont cette profondeur. C'est toujours plus facile quand les pots sont en jardin de l'extérieur. Oh, voilà.
Hélène Hood, est-ce que je peux garder les draps sur les plants de tomates durant le jour? J'ai couvert pour le froid de la nuit passée.
OK. Je n'ai pas regardé la température du jour aujourd'hui. Je suis tellement fixé par les températures nocturnes ces temps-ci. Mais si la température doit rester en bas de 12, oui, gardez la couverture. Si ça doit monter, on peut l'enlever, mais il faudra le remettre. Ou peut-être plutôt ouvrir un peu pendant le jour, puis fermer complètement la nuit. Voilà.
Je ne sais pas dans quelle région Mme Hood est située, mais pour Québec, à tout le moins, on attend un 16 degrés aujourd'hui avec du soleil.
Et la nuit, c'est quoi?
La nuit, c'est du 6 degrés à 5 heures demain matin.
Voilà, c'est ça. Donc, oui, vous pouvez ouvrir le jour quand vous êtes rendu haute 12. Et moi, je le répète, ouvrez un peu et fermez le soir. Ça va être correct.
Et ceci, c'est pour Québec. Je ne sais pas ailleurs au Québec, mais pour Québec, c'est ça qui se passe pour la nuit qui vient, la journée d'aujourd'hui et la nuit qui vient. Donc, voilà. On va possiblement avoir le temps d'une dernière question de Sylvie Brousseau. Elle dit « J'ai acheté 2 livres du jardinier paresseux. Trop hâte de consulter, de les consulter. Bonne journée. » Et Larry, ben, finalement, comme ce n'était pas une question, on va y aller une deuxième question de Matt P. qui dit qu'elle a planté une clématite, mais sa principale tige semble brisée, même si elle continue de grandir. Dois-je couper la tige car je vois qu'elle est semi-déjà brisée?
Mais écoutez, moi, je laisserai en espérant avoir une certaine floraison. Mais c'est cassant, les clématites, malheureusement. Et ça arrive. Et si jamais ça commence à sécher, c'est à couper. Que voulez-vous? Vous avez fait de votre mieux. Mais à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire.
Je t'ai lu un autre commentaire. J'ai le temps de lire un autre commentaire de Jeannette Ouellet qui dit « Merci, j'ai été particulièrement gâtée en conseil ce matin. »
Ben voilà, ça me fait toujours plaisir. Hein? Mon rôle ici, c'est de vous aider à jardiner pour que ce soit facile. Et c'est ce que j'essaie de faire chaque semaine.
Ben, c'est déjà la fin, mon cher Larry.
Merci beaucoup. Donc, encore merci à tout le monde d'avoir été ici aujourd'hui. J'apprécie votre présence. Un gros merci surtout à Michel Bédard. C'est occupé des questions et des commentaires, bien sûr, et la technique également. Il y a également, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, il y a Madame Bordelot et c'est Kaya qui fait le lien entre nos deux systèmes. Et moi-même, Larry Hodgson, évidemment, j'ai mon cerveau et des fois ma voix pour vous parler. Et avec ça, on finit l'émission. Je vous invite à visiter mon site web à www.jordanieparesseux.com. Bonne semaine et bon jardinage.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant Thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume. Musique, entrevue avec des grands noms, des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88.3 et CKIAFM.org. On vous y attend.
Espace Région de Québec, un organisme en prévention de la violence faite aux enfants, célèbre ses 30 ans cette année. Pour cette occasion, vous êtes invité à une fête familiale le dimanche 5 juin au domaine de Maizeray. Plusieurs prix de présence et activités vous attendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Pour connaître les détails, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace Région de Québec.
Mai 2022, mois de la poésie. Spectacle, arts visuels, slam, musique, danse, création, rencontres, thé et poésie. Découvrez toute la programmation du Mois de la poésie au www.moisdelapoésie.ca. Le Mois de la poésie est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de l'Entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés,